Encore du hockey ce soir aux amateurs de sport. Accueillons du magazine athlétique.com Marc-Antoine Godin. Bonsoir Marc-Antoine.
Bonsoir Mario.
Hey, c'est intéressant ce que tu nous as publié sur athlétique.com aujourd'hui. Tu as recensé les 57 transactions effectuées par Marc Bergevin depuis son entrée en scène ici à la direction générale du Canadien.
Oui.
Et quel bilan en fais-tu? C'est sûr qu'il y en a des plus grosses que d'autres parlant de transactions.
Ben, hein? C'est clair. Les transactions mineures sont toujours plus fréquentes que les transactions de joueurs clés, évidemment. Les joueurs mineurs vont changer de camp plus souvent. Mais c'est ce qui m'a frappé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une note. Les gens ont dit, ah, oh, ben là, c'est subjectif, etc. Mais j'ai donné une note à chacune de ces transactions-là en donnant un explicatif sur chacune de ces transactions-là. Écoute, là, ça remonte à ses tout débuts, à l'arrivée de Bergevin à la tête de l'équipe. Mais les transactions les plus mineures, des gars dont on n'a jamais entendu parler, Robert DeSantis, Keegan Lowe, tu sais, des gars. Là,
le fils de Kevin Lowe.
Oui, c'est ça.
Oui.
Alors, et puis, donc, j'ai catégorisé ça selon est-ce que c'est une transaction donc de joueur vedette, de joueur premier plan, joueur de soutien, joueur de ligue mineure. Puis, une cote sur 10. Puis, j'ai comme multiplié ça pour essayer de comprendre finalement quelles sont les tendances de Marc Bergevin, là où il y a eu les meilleurs coups, là où il y a eu le plus de difficultés. Et la conclusion que j'en retire, c'est que Marc Bergevin, on entend souvent le fait que c'est un gars qui aime aller, entre guillemets, au marché aux puces, qui aime faire des petites affaires, aller chercher des gars de soutien, etc. Mais il y en a eu.
Un peu à l'image du joueur qu'il était.
Voilà.
On entend souvent
absolument.
Les critiques, positives ou négatives.
Oui, oui. Puis il y a eu des bons coups à ce niveau-là. Sauf que l'éventail est tellement large qu'il a raté son coup sur des joueurs de soutien, puis il en a réussi d'autres. Tandis que sur les joueurs plus de premier plan, je pense que dans la majorité des cas, il y a eu, on peut lui donner une note
bonne
assez
moyenne.
Positive. Parce que je te dirais que parmi les joueurs qui sont plus de haut profil ou en fait qui sont de catégorie là, plus joueurs d'impact, là, je te dirais que l'échange d'Andrew Shaw, l'échange de Pierre-Alexandre Parenteau, c'est probablement les deux seuls qui lui donnent pas du tout la note de passage. Évidemment, il y a des gens qui vont dire qui à ce jour reste encore extrêmement fidèle à Piqué Subban, qui disent ben lui le Canadien a fait une erreur en l'échangeant, Weber c'est pas un bon retour, etc. On peut être des deux côtés de la clôture à ce niveau-là parce qu'il y a un aspect hockey évidemment,
oui.
Comme tout le monde sait dans cette transaction-là. Il y avait également un aspect hors glace qui est extrêmement puissant puis qui à mon avis a motivé cette transaction-là et on pouvait pas en faire abstraction parce que c'était clair. On l'a compris après coup, là, mais c'était clair que la vie de Subban à Montréal, ben en fait, la carrière de Subban à Montréal était terminée à la fin de cette saison-là, puis il devait partir. Alors, dans ce contexte-là, comment Bergevin a réussi à manœuvrer?
Ouais,
je
ouais.
pense que c'est, le résultat est somme toute positif. Donc, les joueurs qui sont de nature à influencer ou améliorer positivement l'équipe, Bergevin s'est somme toute très bien tiré d'affaire. Puis, particulièrement au cours de la dernière année, la façon dont il a redressé la barre depuis la fin de la dernière saison. C'est vraiment là où vraiment son impact a été le plus positif.
Fort intéressant tout ça. Laissons de côté les transactions de Bergevin maintenant au cours des dernières années, puis regardons le présent et l'avenir. Est-ce que tu trouves que la tenue de Carey Price ces dernières semaines est l'un des éléments les plus rassurants pour la suite des choses chez le Canadien?
Ben, je te dirais qu'il est le plus rassurant, je ne sais pas, parce que je continue de retenir un petit peu mon souffle par rapport
Price?
À sa contribution. Ben oui, parce que tu sais, à chaque fois qu'il revient, tu dis « OK, là, c'est correct ». Puis, whoop, là, il y a un petit essoufflement. Donc, je me garde une certaine réserve. Cela étant dit, depuis le retour au jeu de chez Weber, coïncidence ou non, c'est certain que son niveau de jeu a augmenté. Puis, ce qu'on voit, même malgré le mauvais but qu'il a accordé au Colorado, il a joué un excellent match au Colorado. En Arizona, il était impeccable. Puis, en fait, il enchaîne les bonnes performances depuis plusieurs matchs. Et à ce niveau-là, je trouve qu'on retrouve le Carey Price d'antan. Puis, s'il continue sur la même veine, le Canadien, c'est clair, ne peut qu'en bénéficier. Cela étant dit, dans quelle mesure il va être capable de maintenir cette régularité-là et est-ce qu'il va être un jour capable de retrouver le brio qui est à la hauteur du contrat qu'on lui a consenti? Parce que les
amateurs... Un joueur qui fait la différence.
Écoute, à chaque fois que des journalistes écrivent sur Carey Price...
Ben Brunet me dit la même affaire tantôt. On parle juste du contrat et des 10 millions par année.
Oui, exact. Les gens ont bien de la misère à faire abstraction des deux. Est-ce qu'on aurait raison de séparer les deux choses? Moi, je trouve que d'entrée de jeu, c'est un contrat qui était trop lucratif, mais ça prenait ça pour le garder. Alors, mais après ça, est-ce que ça doit être nécessairement la seule unité de mesure par laquelle tu dis, bon, mais Price, mm-hmm. c'est le mieux payé, donc il doit être le meilleur. Quand tu regardes ailleurs du côté des attaquants ou des défenseurs, c'est pas toujours le cas.
Non.
C'est pas toujours le meilleur qui est le mieux payé. Il y a toujours une roue qui tourne, puis à un moment. Sauf que c'est quand même intéressant. Dans le cas des gardiens, on voit une inflation. chez les attaquants, chez les défenseurs. Mais est-ce qu'il va y avoir une inflation du côté des gardiens? Ça, j'en doute. Ça se peut très bien qu'on considère le contrat de Carey Price à 10,5 millions comme étant un petit peu hors norme, puis qu'on essaie de garder les gardiens de but dans un bracket.
Là, dans la durée, dire, on devait avec le contrat de Pecorine, entre autres.
Oui, c'est
côté
ça.
De Nashville, je pense un contrat de 4 ou 5 ans.
Mais
dans
là,
son
il est
cas.
Plus vieux, par exemple. Riné étant plus vieux, ça
garde de voir Vasilevski quand il sera en position de signer avec
exactement.
Tampa Bay.
Vasilevski lui risque d'être. Lui risque probablement
d'être. Une belle référence.
Oui. Sauf que, à Tampa Bay, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi au fil des ans à convaincre leurs meilleurs joueurs d'en prendre un petit peu moins pour garder le noyau intact. Mmh. Alors, est-ce que Vasilevski va entendre l'appel des sirènes de la même manière? Je l'espère pour Julien Brisebois, mais effectivement, ça pourrait très bien être celui qui éventuellement vise un contrat à la Carey Price.
Permets-moi d'enchaîner sur ta dernière image, et justement, là, l'autonomie 2019, c'est loin encore, mais il y a des décisions importantes à prendre pour plusieurs organisations. Daniel Brière disait hier à notre antenne que s'il était dans les bottines du DG des Flyers et qu'il pouvait pas en venir à une entente avec un Wayne Simmonds, il aimerait pas le perdre pour rien, comme les Islanders qui ont perdu Tavares pour rien. Alors, qu'est-ce que tu entrevois pour des cas comme Wayne Simmonds, comme Eric Carlson avec San Jose, Matt Duchene, Mark Stone? Je ne mentionne que quelques-uns, mais c'est une grosse liste cette année. Là. L'année 2019, là, je pense que c'est une des grosses listes de joueurs autonomes sans compensation qu'on a eues dans les dernières années.
Oui, absolument. Puis peut-être qu'on assiste à un renversement, parce que pendant plusieurs années, les meilleurs joueurs étaient signés à long terme par leur équipe. Sauf que là, tu vois, toutes les bonnes équipes, ou la plupart d'entre elles, sont coincées contre le plafond salarial, où elles anticipent des hausses de salaire à des plus jeunes joueurs. Donc, des joueurs qui sont un petit peu plus âgés, qui ont l'âge de l'autonomie complète, ben là, on retient, ils y pensent deux fois avant de signer ces joueurs-là. Dans le cas, tu nommes Stone et Duchene. Nous autres, c'est sûr qu'à Ottawa, la situation est particulière. Je m'attends à ce que... La logique voudrait que, peu importe que les sénateurs soient dans le coup ou non, qu'ils les échangent quand même. Peut-être qu'encore là, le propriétaire des sénateurs va dire, ben là, on a une chance d'être dans les séries, on les garde, mais ça n'a aucun sens. Si ces deux joueurs-là sont destinés à partir, il faut que tu maximises ce que tu peux obtenir en retour. Dans le cas de Wayne Simmonds, Ron Hextall, l'ancien directeur général, voulait se limiter à un contrat d'un an, deux ans. Il n'était pas certain de voir Simmonds à long terme avec les Flyers. Là, c'est intéressant avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, si l'évaluation de Chuck Fletcher va être différente. Mais il va falloir que les Flyers se décident rapidement à ce niveau-là. Eux, ils ont des gestes à poser pour revenir dans le coup. Ils essaient de se créer un petit peu de momentum à la suite du changement de GM puis d'entraîneur-chef. Mais ces trois gars-là, je les vois changer d'adresse probablement avant la fin de la saison. Puis écoute, Eric Carlson, peut-être qu'il changera pas d'adresse, mais je m'attends à ce qu'il teste le marché des joueurs autonomes également à San Jose. Peut-être qu'il essaie de revenir de l'Est, c'est ça. Alors, faudrait voir, parce que ça a tellement été considéré comme étant une transaction qui était à sens unique et que les sénateurs se sont fait rouler dans la farine, mais s'il fallait que les Sharks de San Jose ratent les séries, ben on réaliserait finalement qu'ils ont donné beaucoup pour un joueur
qui perd Carlson s'il ne garde pas avec
c'est
eux.
C'est ça, pour un joueur qui n'aura pas été capable de faire la différence, peut-être parce que Carlson, c'est un gars qui aime être en contrôle, qui aime être le corps arrière, le général. Et le général à San Jose, ils en ont déjà un, puis il s'appelle Brent Burns. Alors,
il n'y en avait peut-être pas tant besoin.
Ben peut-être, exactement. T'sais, alors là, ils se sont dit, trop de la même chose, peut-être que c'est pas ce qu'il leur fallait. Donc, cela étant dit, c'est une équipe qui était construite pour gagner maintenant. Je pense à ça, leur capitaine Joe Pavelski, c'en est un autre qui va devenir joueur autonome à la fin de la saison. Il arrive à la mi-trentaine. Ouais, est-ce qu'ils vont vouloir le signer à long terme? S'ils veulent garder Eric Carlson, je pense qu'ils vont devoir dire au revoir à Joe Pavelski. Donc, la situation à San Jose va être très intéressante. Puis effectivement, comme tu le dis, la liste est très, très longue. Puis il risque d'avoir beaucoup de mouvements à la date limite des transactions si jamais on arrive à identifier des équipes qui sont sorties de la course à ce moment-là.
En rafale, vois-tu le Canadien acheteur ou vendeur ou statu quo d'ici la date limite des transactions?
J'ai eu de la misère à voir le Canadien comme étant acheteur. Statu quo ou davantage vendeur. Écoute, s'il y avait eu un joueur qui avait cogné à la porte, un allié qui avait cogné à la porte du top 9 puis dire « je suis prêt à prendre des plus grosses bouchées », je me dis peut-être que échanger à nouveau Thomas Tatar n'aurait pas été une mauvaise affaire. Faire en sorte, ne serait-ce que parce que c'est un gars qui va intéresser d'autres équipes, l'âge, il arrive à la fin de la vingtaine, il va être bientôt à la trentaine. Tu sais, si tu veux coordonner les meilleurs joueurs dans ton équipe, faire en sorte que il y ait une progression.
Pas le temps pour rien non plus.
Mais ben non, c'est ça. Puis tu
sais, c'est l'intention de le signer pour une couple d'années.
Bah
ben
là, non, mais il y aurait, non, mais il reste encore. C'est je pense vrai, qu'il reste encore trois. Oh, au moins, je pense qu'il reste trois années de salaire ou quelque chose comme ça. Raison. Il est encore signé à long terme. Mais c'est de voir justement si tu peux pas maximiser un retour sur des gars qui sont encore signés pour quelque temps, mais qui seront peut-être plus à leur top. Au moment où l'équipe, elle, va être la plus compétitive. Donc, c'est d'essayer de coordonner tout ça. Je m'attends à ce que Jordy Benn, peut-être, quitte à la date limite des transactions. Mais un grand coup, là, faudrait... Moi, Marc Bergevin, en début de saison, m'avait dit « on décide en fonction de l'avenir en gardant un œil sur le présent. » Là, j'ai bien hâte de voir est-ce que les succès de cette année font en sorte qu'il va décider en fonction du présent en gardant un œil sur l'avenir.
Mm-hmm.
C'est ça la véritable question.
C'est une belle question et Tatar, son contrat finit en 2021. Merci beaucoup Marc-Antoine. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente période des fêtes et puis on se reparle en 2019 en espérant que le Canadien en aura gagné quelques-unes d'ici là.
Mais oui, absolument. Mais je te remercie beaucoup Mario.
Merci Marc-Antoine d'Athletic.com. On revient dans un instant. Il va être question de football avant-dernier week-end du calendrier régulier dans la NFL avec Bruno Eppel.